Pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger.
Salut à tous, bienvenue sur Hors Série. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau dans le texte consacré cette semaine à cet ouvrage pour un nouveau communalisme. C'est la dernière livraison du si précieux partenariat entre les éditions Amsterdam et l'Institut La Boétie. Il est sous-titré « Les communes au cœur de la révolution citoyenne ». Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'être accompagnée de deux invités. Antoine Salès-Papou, vous êtes l'un des co-auteurs de l'ouvrage en compagnie de Cécile Gintrac, Manuel Ménal et Alan Poplard. Et vous êtes également responsable de l'école de formation de l'Institut La Boétie. C'est bien ça ?
C'est ça. Bonjour.
Bonjour. Anaïs, quant à vous, vous êtes députée, je vous nomme en entier, Anaïs Beloissa-Chérifi, pardon. Vous êtes députée France Insoumise pour le Rhône et vous êtes également candidate aux élections municipales pour la ville de Lyon.
Tout c'est à bien fait. Ça. Merci de votre invitation.
Avec plaisir. Alors, donc, vous allez être amenée en tant que candidate à mener la campagne en faveur de ce nouveau communalisme qui est désormais au cœur de la stratégie insoumise. Alors, le communalisme, officiellement, c'est cette forme d'organisation politique qui repose sur une fédération de communes administrées selon les règles de la démocratie directe. C'est donc un projet politique articulé à un échelon local, celui de la commune, la plus petite unité administrative du territoire. Mais la commune, c'est aussi évidemment un modèle historique très inspirant, qu'on pense aux communes médiévales, hein, quand les habitants de certaines villes administraient eux-mêmes, au Moyen-Âge, leur ville, indépendamment du pouvoir seigneurial, du pouvoir féodal. Et puis on pense aussi, bien sûr, au modèle de la Commune de Paris en 1871, quand les Parisiens ont administré la ville de Paris pendant 72 jours, mettant en œuvre des conquêtes sociales superbes avant que tout ça se termine dans la très sanglante semaine sanglante. Alors, c'est le communalisme, un projet très ambitieux. L'ouvrage ne cache pas ses ambitions. Hein. Jean-Luc Mélenchon, dans la préface, indique que la commune a vocation à devenir l'institution d'où émerge un nouveau monde, où s'exerce véritablement une souveraineté collective, où se mettent en œuvre des radicalités concrètes susceptibles de faire bifurquer notre destin commun vers des formes de vie plus respectueuses de la dignité de chacun, plus respectueuses du vivant. Alors, c'est une sorte de renouvellement stratégique. Et du coup aussi, ça produit un rafraîchissement lexical et sémantique, puisque aux côtés de la tradition communaliste dans laquelle la France insoumise s'inscrit désormais explicitement, apparaît le terme de collectiviste. C'est un projet collectiviste qui vise à multiplier les communes collectivistes en mettant en place une écologie collectiviste. Donc on est vraiment là avec l'apparition d'un signifiant très fort qui ne peut que nous faire plaisir ici à Hors Série, qui est un site qui ne cache pas son inspiration marxiste, mais on n'ignore pas que c'est un terme qui est associé dans le débat public à un univers perçu de manière très négative, l'univers du régime soviétique avec sa bureaucratie autoritaire, avec le spectre du totalitarisme qui arrive à l'arrière-plan. Bon, bref, un mot lourd à porter. Et du coup, peut-être, je ne sais pas, peut-être cette période est-elle révolue ou l'association était systématique, mais la première question que je me suis posée en vous lisant, c'est comment on fait pour porter aujourd'hui un projet collectiviste sans être taxé aussitôt de totalitarisme, Antoine ?
Alors, bonne question. Pour répondre, je pense qu'il faut déjà dire que, en fait, ça fait partie, sûrement, vous l'avez déjà remarqué, du projet, de la proposition politique, la proposition stratégique plutôt insoumise, que de proposer, de creuser des jalons sur des mots nouveaux, sur un vocabulaire nouveau qu'on propose dans le débat public. Le mot insoumis lui-même a été au cœur de ce travail, dans le nom du mouvement, puis dans la caractérisation d'un engagement politique, dans l'articulation donc entre une étiquette qu'on met à un militant politique et un mot qui veut dire qu'il y a déjà quelque chose d'assez fort.
Oui, mais insoumis n'avait pas les mêmes connotations.
C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet stratégique de la France insoumise, c'est quand même de reconstruire la gauche quelque part. Donc, ouais. De reconstruire tout un tas de trucs qui ont été détruits, rasés, oubliés, Je pense qu'on en parlera. En fait, le livre fait partie de ça aussi. Ouais. Et pour faire ça, on doit reconstruire un champ sémantique qui nous est propre, qui nous identifie. Et donc, on devait, à mon avis, trouver un mot qui décrive en positif le projet Insoumis, mais de façon suffisamment globale et vague pour ne pas être trop précis et caractériser une mesure, un truc, parce que sinon, il y a un programme déjà très complet.
Ouais.
Et je pense que le mot collectiviste s'est imposé, collectivisme, parce que le collectif, c'est bien de ça dont il s'agit. Et surtout, on pense que du point de vue de la question principale du XXIe siècle, la question de la crise écologique, pour nous, le débat, le clivage sur la réponse apportée à la crise écologique se noue autour de ça, soit du collectivisme, soit du marché, donc de l'égoïsme, des solutions collectives, coopératives, solidaires, ou bien des solutions de compétition, de concurrence, etc. Mm. Sur la question du potentiel polémique du mot, je pense que c'est aussi une tactique de notre part, en fait, que de choisir des fois des mots qui vont faire réagir, vont provoquer, parce que ça va provoquer de la discussion, parce que ça va permettre, du coup, par la discussion, de que ce soit pas seulement un mot parmi d'autres dans le filet d'eau tiède que disaient les politiques, mais quelque chose vraiment dont on parle, dont on se souvient.
En assumant le clivage, que ça peut du coup manifester, quoi.
Quand Jean-Luc Mélenchon est arrivé il y a 10 ans, même un peu plus maintenant, peut-être 15 ans, avec l'expression de planification écologique, il y a déjà, à l'époque, on peut retrouver des réactions, des articles, des éditos sur le mot planification, en renvoyant justement...
Exactement au même problème du totalitarisme soviétique.
Exactement le même truc. Et je me souviens même, là j'ai en tête, par exemple, mais il doit y en avoir des milliers d'autres, mais je le dis quand même parce que j'ai en tête, j'avais déjà cherché, il n'y a pas longtemps, les réactions qu'avait suscité la proposition de planification d'un article, d'un édito dans l'Obs, je crois, de Yannick Jadot, sur Saint-Surjean, contre le fait qu'on osait associer cet imaginaire soviétique et tout à l'écologie, ce qui allait ruiner l'écologie qu'évidemment lui-même avait réussi à porter à un pinacle que tout le monde connaît.
Ouais.
Ça, c'est la deuxième chose. Donc, il y a un caractère... on a parlé des fois de mots obus. Voilà, donc c'est c'est une question tactique, en fait, aussi, de choisir des mots qui vont faire réagir. Et quand même, je voudrais dire... Dernièrement, ce n'est pas sans rapport avec notre discussion d'aujourd'hui, c'est que l'association entre collectivisme et totalitarisme, bureaucratie autoritaire et tout, ne doit pas être simplement regardée comme quelque chose que la pensée dominante aurait produit pour conjurer le sort de toute révolution collectiviste à jamais. Mmh. C'est aussi, à mon avis, à regarder comme... des erreurs objectives, des défauts objectifs de la construction qui était celle de ce qu'on appelait le socialisme réel, le collectivisme, et donc se demander pourquoi justement, quand on a essayé de construire le socialisme, quand on a essayé de construire le collectivisme, on a produit aussi des formes autoritaires et bureaucratiques.
Effectivement.
Je pense que la question justement du communalisme, la question de la place des communes, la question d'une certaine vision de l'articulation entre le niveau décentralisé maximum et la puissance qu'offre la possibilité, la centralisation, l'articulation entre les deux. Là-dedans se trouve une partie de la réponse historique à apporter à l'échec, d'un point de vue même des critères de l'émancipation, du projet soviétique.
Ouais. Vous, Anaïs, quand vous êtes sur le terrain avec vos, je ne sais pas si on dit administrés aussi en tant que député, quand vous êtes en contact avec les populations locales, là où vous travaillez politiquement, est-ce que c'est un mot collectivisme ? Est-ce que vous pouvez parler du projet collectiviste ? Ça vient facilement dans des échanges avec les concernés, les premiers concernés les...
Alors, pas vraiment, pour être tout à fait honnête, on ne va pas jusqu'à ce point de réflexion.
Ouais.
On va plutôt dire qu'il y a des moments sur le communalisme, par exemple, sur la place des communs, de la dignité humaine, du bien vivre. Ça revient plutôt parce que quand on est sur le terrain, les personnes, en fait, nous portent leurs préoccupations, leurs aspirations. On est moins dans des trucs théoriques. Mais en tout cas, nous, on s'inspire de ce qu'on entend sur le terrain, et moi en premier lieu en tant que députée et puis candidate à ces élections municipales, c'est que je m'inspire de ce que me disent les citoyens et les citoyennes pour ensuite bâtir le programme politique que nous allons porter lors de ces élections et pour faire en sorte que ces préoccupations, comme elles sont ancrées dans une forme de réalité assez générale, ça nous permet d'avoir un programme qui est au plus proche des aspirations des gens et donc de répondre à des préoccupations. Et je crois que c'est là la grande force de la France insoumise et qui s'est témoignée en 2022, mais aussi lors des dernières élections législatives et présidentielles précédentes, c'est-à-dire qu'on a un programme politique qui est plébiscité par les gens parce qu'on, dans la construction programmatique, on a toujours fait appel à la fois aux citoyens, aux citoyennes pour nous donner leur avis, mais aussi aux associations, aux collectifs, aux experts de domaines, de thématiques, pour faire en sorte que ce qu'on propose soit inspiré du bien commun, inspiré de ce que veulent les citoyens et les citoyennes. Ouais. Et je rejoins Antoine sur ce qu'il disait tout à l'heure sur la bureaucratisation. C'est vrai que il y a bon nombre de travaux sociologiques qui nous montrent qu'à partir des années 1970, on a eu un tournant dans la rationalisation de l'action de l'État, dans aussi la bureaucratie, qui a fait, qui a permis comme conséquence le fait que les décisions soient de plus en plus opaques. Et c'est ce qu'on aussi on dit dans le chapitre 1, quand on revient sur une nouvelle forme de démocratie, c'est que justement, on veut donner des nouveaux outils aux citoyens et aux citoyennes pour justement faire en sorte que cette bureaucratie, cette rationalisation de l'action de l'État et donc des collectivités territoriales répondent à des aspirations démocratiques populaires.
Ouais. Alors on voit bien le mouvement, effectivement, le mouvement du bas vers le haut, hein, qui est vraiment au cœur de la stratégie insoumise de faire remonter les thèmes depuis les luttes, depuis le terrain, pour les faire remonter ensuite dans la stratégie vraiment de la direction du mouvement, si je puis dire. Mais donc, dans le projet communaliste, comment ça s'organise, cette prise en compte de l'expérience des habitants? Il me semble que dans le bouquin, il est beaucoup question de la prise en charge par les citoyens eux-mêmes, de leur propre destin commun. Alors, est-ce que c'est sous la forme d'assemblées citoyennes locales? C'est quoi les leviers de participation concrète dans le projet communaliste, les leviers de participation concrète de la population à l'échelle de la commune? C'est quoi?
Ouais, je vais commencer pour peut-être évoquer les propositions qu'on fait sur la thématique de la démocratie. Aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'il y a une forme de dégagisme dans notre pays, que les gens ont de moins en moins confiance à la fois en les politiques, en délibération politique. Ouais, oui. Et que nous, face à ça, on sait aussi que les élections sont des moments d'éducation populaire. Mmh. Et que lorsque vous faites en sorte que les citoyens et les citoyennes soient acteurs des délibérations politiques et publiques, vous créez une sorte d'engouement et donc vous créez aussi de l'éducation populaire pour toutes et pour tous. Nous, ce qu'on propose, c'est trois choses. Un, c'est le référendum d'initiative communale ou citoyenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une délibération municipale sur laquelle il y a une pétition qui a 5% du corps électoral, c'est-à-dire par exemple à Lyon, c'est 20 000 personnes, si vous avez une pétition en contre sur une délibération municipale, nous convoquons un référendum dans l'année et nous engageons à ce que le résultat soit respecté, parce qu'aujourd'hui, on a vu que bon nombre de projets menés par des maires contre les populations cristallisent beaucoup la confiance envers les institutions et le pouvoir politique. Et donc, pour nous, il est important que les citoyens qui occupent l'espace public, les citoyens, c'est à eux que on va dire que... Comment dire moi, j'ai assez à cœur de dire que les citoyens, c'est le premier acteur de l'espace public et politique. Mais et donc, ils doivent aussi pouvoir donner leur mot d'ordre, donner leur satisfaction sur des projets. Et donc, il y a le référendum d'initiative citoyenne. Ensuite, il y a aussi la possibilité de révoquer les élus. C'est quand même une mesure qu'on porte depuis 2017. C'est-à-dire que vous pouvez révoquer un élu s'il n'a pas rempli ses engagements, s'il est mené... Par exemple, il peut être... mêlé de près ou de loin à des défauts en termes de prise illégale d'intérêt ou des choses comme ça. Nous, on est quand même très au fait sur ces questions de corruption. Et ensuite, bien sûr, la participation pour dès 16 ans, parce que nous considérons que la démocratie, ça ne s'en Enfin, ça ne s'apprend pas dans des livres.
Participation au vote, donc, c'est ça ?
C'est ça.
Droit de vote à 16 ans. Mais ma question porte sur les dispositions de la population à s'impliquer, en effet. Parce qu'en fait, bon, d'abord, ça a déjà été expérimenté, toutes les formes de démocratie participative. Et il y a un certain nombre d'écueils qui ont été observés dans la démocratie participative. C'est que des consultations du peuple sans suite, on enterre les décisions. Ou bien, et ça, c'est un problème qui me paraît plus compliqué, parce que je veux bien croire l'engagement de la FI à respecter les consultations, on consulte le peuple et derrière on fait comme le peuple il a dit, ça j'y crois. Le problème c'est quel peuple va se mobiliser en effet sur ce type de consultation, sur l'implication dans la vie de la communauté, parce que c'est un peu toujours les mêmes qui participent aux élections, aux consultations, hein. Il y a vraiment une sorte de sélection par le diplôme, hein. C'est des gens qui ont des diplômes et qui ont du temps, et donc les travailleurs exploités ou les personnes qui eux-mêmes ne se semble pas légitime à s'impliquer dans ce genre de délibération, se retrouve toujours évincé. Et donc, ma question, quand je demandais quels sont les leviers de participation, c'est aussi qu'avez-vous prévu pour parvenir à avoir une participation, une implication locale qui contourne, enfin qui résolve cette problématique-là de toujours les mêmes. Hein, en gros, les bobos, les bobos diplômés, on les voit dans tous les conseils de quartier, c'est bon, on y est. Hein. Mais les travailleurs, les mères isolées, voyez, les gens avec peu de qualifications qui ne se sentent pas légitimes, on ne les retrouve jamais. Mmh. Or, c'est ça le peuple, c'est aussi ça le peuple pour lequel la FI milite. Alors, comment on met en place une participation réelle ? Est-ce qu'il est obligatoire, indemnisé ? Vous voyez, des solutions comme ça ?
Ben, je pense déjà qu'il ne faudrait pas trop dire que les bobos diplômés, on les voit beaucoup dans les conseils de quartier.
Ah ouais ?
Parce que alors, je pense qu'on voit vraiment... On n'en est pas à ce stade-là, quoi, dans les conseils de quartier. Je pense qu'on voit une toute petite partie de la population plutôt diplômée, âgée, des communes. Quoi,
c'est les retraités, plus.
Voilà. Ouais. Mais vraiment, une partie très, très minime, quoi. Je pense principalement... Donc, en fait, je dirais d'abord, en fait, il faut aussi considérer que... si les gens ne viennent pas dans des... Par exemple, parlons des conseils de quartier, parce que les conseils de quartier, on peut dire que c'est un truc que nous, sur lequel on voudrait s'appuyer, parce que c'est ce qui s'approche d'une assemblée citoyenne, ce qui s'approche dans une architecture institutionnelle qui existe déjà, en fait. Si on veut... D'abord, il faut aussi se rendre compte que les gens ne viennent pas parce qu'ils savent que ça ne sert à rien.
Tout à fait.
Donc déjà, la première chose à faire avant de poser les questions qui sont des questions à se poser, qui sont des questions légitimes sur le capital culturel, par exemple, dont les gens disposent pour participer à tel type de délibération ou non, il faut d'abord se poser la question de... il faut que ces trucs servent à quelque chose et que les gens savent que ça sert à quelque chose. Donc il faut leur donner un vrai pouvoir, un réel pouvoir. Donc imaginez ce que ça peut être. Et ça, à mon avis, c'est aussi... la créativité, le communalisme induit une forme de créativité puisqu'elle induit des situations différentes, des communes différentes. Et tout. Mais, un droit de veto, un droit de mise à l'ordre du jour au conseil municipal, de décider des thèmes des votations, je ne sais pas. Mais il faut trouver ce que c'est le vrai pouvoir des conseils de quartier d'abord pour que les gens y retournent. Et puis ensuite, encore une fois, avant... Je dis ça parce que je pense qu'on a tendance à sauter directement à la question des dispositions culturelles des gens à participer à ce genre de choses. En fait, il y a des questions matérielles qu'il faut se poser avant.
Oui, mères isolées,
exactement.
Par exemple.
Ensuite, il faut se poser la question de l'organisation matérielle des réunions, des conseils, etc. Où ils sont, à quelle heure ils se tiennent, est-ce qu'il y a une garderie gratuite pour pouvoir s'y rendre, etc.
Ouais.
Déjà, ces deux trucs-là, donner du pouvoir et les conditions matérielles de l'organisation, ça fait une sacrée différence par rapport à ce qui se passe maintenant. Et ensuite, l'autre question, qui est la question culturelle, des savoirs qui lui permettent de prendre la parole, de s'exprimer
dans les
autres.
Oui, enfin, qu'ils se sentent légitimes. Ah, hein, je ne dis pas qu'ils n'ont pas les compétences de le faire, c'est qu'ils ne se sentent pas légitimes. Les gens moins diplômés, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est qu'ils ils osent moins.
Ouais.
Ils s'investissent moins
parce
qu'ils s'estiment non légitimes.
Parce que les gens qui se sentent légitimes sont aussi des gens qui ont, par exemple, dans leurs études, appris certaines techniques pour prendre la parole devant les autres, ont été habitués dans leur milieu professionnel à le faire. Donc, il faut réfléchir à comment dépasser ça aussi, évidemment.
Ouais.
Et ça, je pense qu'il y a des... enfin, je pense que l'éducation populaire a réfléchi depuis longtemps à ça, quoi, en fait.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un problème sans solution. Ouais. Il y a des formes de débat qui existent, qui sont autres que l'assemblée classique où l'orateur prend la parole devant tout le monde, etc.
Ouais.
Donc, il y a d'autres moyens de que les gens s'expriment en termes d'organisation de débat ou de délibération. Et puis, il y a la formation, l'éducation populaire. Ça m'échappe à l'instant, mais dans le livre, je crois qu'on cite... une des villes espagnoles qu'on a appelées les mairies du changement, quand Podemos, avec des collectifs citoyens, a gouverné des mairies. Il y a une des villes qui avait mis en place, dans son programme de budget participatif, par exemple, l'école populaire pour les femmes, avec l'idée que, oui, c'était pas honteux que de dire il faut... faire l'éducation, il faut combler justement ce gap qu'il y a avec certains qui ont eu, parce que c'était leur place dans la société, une éducation à prendre la parole, une habitude à le faire.
Et on observe que les hommes,
etc.,
prennent beaucoup plus la parole que les femmes dès qu'il y a un collectif, dès qu'il y a une assemblée. Effectivement, les femmes ont tendance à s'auto-effacer systématiquement. Ouais.
Tout à fait.
Anaïs, sur cette question-là.
Justement, réagir sur ce que disait Antoine sur les conditions matérielles. C'est pour ça que nous, lorsqu'on a construit notre programme, on a aussi articulé... la participation citoyenne aux conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire que lorsque vous êtes une mère isolée, et vous savez que depuis 1970, il y a une mère sur cinq qui est isolée, alors qu'avant c'était une sur dix, et donc lorsque nous proposons d'avoir des crèches gratuites et adaptées dans nos communes, ça permet de forcer la participation aussi, d'avoir du temps pour elle, du temps choisi, et de ne plus avoir à choisir entre son travail ou d'autres engagements et le bien-être de son enfant. Donc ça, c'est pour les conditions matérielles d'existence et la participation. Maintenant, moi, je veux formuler ici une proposition que nous avons faite dans le programme Lyonnais. Alors, nous proposons de mettre en place ce qu'on appelle des maisons des communs. Les maisons des communs, c'est inspiré des maisons du peuple, dans lesquelles, justement, on peut à la fois renouer avec l'engagement citoyen, d'avoir des endroits où les citoyens peuvent échanger sur des sujets d'actualité, ou peuvent tout à fait sur des délibérations, sur le prochain référendum, et donc créer, d'une certaine manière, des endroits où l'éducation populaire, justement, elle touche pas le plafond de verre, justement, des stéréotypes et des normes de notre société. Et donc, du coup, dans cette maison des communs, il y aura aussi ce qu'on appelle de l'accès au droit avec un guichet unique de services publics, une recyclerie et aussi un restaurant municipal ouvert à toutes et tous pour faire en sorte qu'on ait une bonne alimentation. Et puis, potentiellement, on pourrait penser aussi à une garderie pour les enfants. Mais du coup, c'est vraiment un lieu qui est pensé, et l'ambition, c'est de le mettre dans chaque arrondissement à Lyon, mais un lieu qui est pensé à la fois pour l'engagement, à la fois pour répondre aux préoccupations de pouvoir d'achat aussi, d'avoir des restaurants municipaux à prix réduit pour avoir une bonne alimentation, mais aussi pour avoir de l'accès aux droits, de l'accompagnement juridique. Enfin, voilà, il y a toute une articulation qui est pensée à la fois sur... ce qu'on observe en termes de difficultés et comment on y répond dans un lieu commun où il y a un échange des pratiques, mais aussi des vécus et des préoccupations.
Alors là, vous évoquiez par exemple l'exemple des crèches gratuites. Hein, ça fait rêver quiconque a été parent et parent de jeunes enfants. Mais on tout de suite se pose la question du financement de ça, parce que le livre ne cache pas les difficultés budgétaires des communes qui ont vu leur marge de manœuvre budgétaire être vraiment s'atrophier à mesure que le néolibéralisme s'est étendu partout et qu'on a retiré de plus en plus l'autonomie financière des communes. Et du coup, on se pose un peu la question en lisant tout le bouquin mais tout ce projet révolutionnaire à l'échelle des communes, est-ce que vous arrivez à le mettre en œuvre à budget constant par rapport à l'existant, sachant que le budget existant, là, il est vraiment très atrophié, très minimal. Donc, est-ce que là, toutes les propositions, genre la cantine gratuite, bio-locale, les crèches gratuites, etc., toutes ces propositions se font à budget constant par rapport à la réalité actuelle des budgets des communes, auquel cas, à quoi on retire l'argent, ou bien à budget transformé, rehaussé, mais du coup, sur quelle base on peut imaginer, vu qu'il n'y a pas beaucoup de leviers de fiscalité à l'échelle de la commune, comment on peut espérer se donner un budget à la hauteur de nos ambitions politiques ? Antoine ?
C'est moi qui dois répondre à ça.
C'est la question piège.
Non, en fait, enfin, disons, d'abord, on va dire que dans le cadre de, on va dire, de la de défendre un programme pour les municipales, par exemple, enfin, d'abord, il y a plusieurs choses à dire, à mon avis. C'est que, enfin, plusieurs possibilités. Il y a plus beaucoup de marge de manœuvre fiscale, mais il en reste, en fait, un peu. Genre, le taux de la taxe foncière est encore décidé par les communes. Les communes ont droit, bref, c'est assez technique, aussi à donner des exonérations.
Non, mais c'est intéressant. On peut
exonérations à certaines catégories de biens pour la taxe foncière, comme pour défendre le petit commerce, par exemple, ou les logements sociaux, ou certains services d'intérêt général, on va dire. Ouais. Donc, il y a la possibilité de ne pas taper sur tout le monde en même temps, par exemple, de faire une différenciation, même si c'est assez limité. Hein.
Oui, d'accord. Mais donc, en tout cas, il y a un petit levier d'autonomie sur la question de la taxe foncière, déjà. OK.
Ouais, je pense que vous réfléchissez à la taxe sur les résidences secondaires.
Oui, voilà, c'est mais ça juste, aussi. Ouais, je voulais juste, parce que là, ce qu'on disait tout à l'heure sur les biens communs et sur le fait qu'on ne veut plus qu'en fait nos communes soient gangrénées par justement les multinationales. Mm-hmm. Par exemple, je vous donne un exemple sur la cantine. Aujourd'hui, on a un monopole de deux entreprises, Sodexo et Elior, qui gèrent bon nombre de restaurants et de cantines scolaires dans plusieurs communes. Si on pense aux marges que se font ces entreprises, elles se font entre 15 et 20% de marge.
Ouais.
Ça veut dire que si nous, notre ambition, c'est bien sûr qu'il y ait un service public de la restauration collective dans nos communes. Ça veut dire qu'en fait, cet investissement que vous allez faire en arrêtant de payer des gens qui se gavent, vous le faites en créant des emplois, en faisant en sorte que vos enfants aient de la bonne nourriture, en donnant des prix rémunérateurs aux agriculteurs en circuit court autour de votre commune. Et donc, en fait, c'est des choix de société, c'est des choix politiques, et ces choix politiques ont des incidences budgétaires. Aujourd'hui, on remarque quand même un certain nombre de nos collectivités territoriales font des délégations de services privés. C'est le cas pour les crèches, pardon. Il y a eu quand même bon nombre de scandales absolus sur le traitement de nos enfants dans les crèches. Nous, on part d'une chose, c'est notre boussole, c'est le bien-être le bien-être de nos citoyens dans nos communes. Et donc, on ne fait pas en sorte que l'appétence de ces multinationales et de ces entreprises qui n'ont qu'un but, c'est faire du profit et du business sur le dos de nos enfants et de nos aînés en ce qui concerne les EHPAD, c'est de faire en sorte que cela redevienne un bien commun. Mmh. Et donc, c'est tout l'enjeu du communalisme. Et je vais presque à dire que le communalisme, en réalité, ça ne déroge pas à l'action de l'État, mais ça en est le précurseur. Ouais. Nos ambitions, c'est de faire en sorte que ce qu'on voit à l'échelle de la commune, l'articulation entre le bien-être des humains, de la nature, la planification écologique, le fait de bien manger, le fait de pouvoir se déplacer, qu'il y ait plus d'aspects aussi ségrégatifs dans nos villes, notamment, on parlera du logement tout à l'heure parce qu'on aime beaucoup cette thématique avec Antoine, mais c'est un mode de pensée qui est en réalité l'ambition que nous avons pour l'action de l'État, en fait.
Pour revenir à, du coup, la question du financement, en fait, c'est ça que j'allais dire principalement. C'est aussi défendre l'idée que, souvent, par le public, de façon collectiviste, justement, c'est moins cher
que
déléguer au privé.
D'aménager des marges pour les actionnaires du privé, bien sûr.
Par exemple, faire revenir, pour filer l'exemple de la cantine, faire revenir la cantine en régie publique, baisser ses tarifs, peut-être faire la gratuité intégrale, la gratuité partielle, ça c'est des marges aussi, bien sûr qu'il faut discuter, mais c'est possible de le financer parce que si tu comptes la marge de Sodexo que tu vas plus faire, il y a eu un rapport de l'ADEME qui a montré aussi que quand on passait au 100% bio, en fait, on économisait entre 30 et 40% de gâchis de nourriture qui n'était plus fait, c'est-à-dire on jette beaucoup moins.
D'accord.
Il y a tout un tas de trucs comme ça, pareil pour l'eau, pareil pour etc., ou les transports. Mais après, c'est vrai que c'est une difficulté réelle.
Ouais.
Les communes sont aujourd'hui placées dans une situation institutionnelle, ont été placées dans une situation institutionnelle qui est faite pour leur faire des économies, c'est-à-dire en réalité leur faire déléguer le plus de trucs possible au privé. Et y a un arrangement institutionnel qui a été fait depuis les années 80 pour que les communes fassent ça. Mmh. C'est pourquoi je pense que c'est un mensonge de dire qu'on va faire entièrement la révolution
oui.
par les communes.
Oui.
C'est pour ça qu'il faut l'articuler avec prendre d'autres niveaux de pouvoir aussi, dont le niveau du gouvernement national,
évidemment.
Que ça va avec.
Oui, 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 oui parce qu'on devine tous les verrous qu'il va y avoir.
Exactement.
C'est-à-dire, effectivement, au niveau de l'État, ne serait-ce que de la représentation de l'État dans la préfecture, en fait. Parce que vous faites apparaître à un moment dans le bouquin que c'est la préfecture peut donner des autorisations sur des grands travaux débiles, là, les grands projets
ouais.
inutiles. Grands projets inutiles. La préfecture peut donner une autorisation avant même que tel conseil environnemental ait donné son avis sur la pertinence écologique du projet. Donc, ça rappelle à quel point la commune, elle a quand même au-dessus d'elle des verrous institutionnels, la préfecture dont je viens de parler, l'État, ouais. évidemment. Et puis, il y a ce verrou que vous faites apparaître, celui de l'intercommunalité, en ouais. fait, qui est que, en fait, la commune, elle est piégée dans un mécanisme... pourtant fédéral en quelque sorte, hein, l'intercommunalité ouais. c'est censé être fédéral, mais en fait vous montrez dans le bouquin à quel point ce mécanisme de l'intercommunalité a été presque conçu ouais. pour dépolitiser
oui.
la politique locale. Moi ça m'a fait penser à la manière dont l'Union européenne
Exactement.
A été conçue pour confisquer la souveraineté mm-hmm. des États-nations. Elle a sanctuarisé dans un endroit où personne ne peut avoir accès. Mmh. On a l'impression que, moi, je ne m'étais jamais penchée sur ça, que l'intercommunalité, c'est comme si ça avait été conçu pour confisquer les communes de la souveraineté d'une politique locale. Mmh. Alors, du coup, comment est-ce que le projet communaliste ambitionne de s'affronter à cette difficulté-là de, parce qu'on peut avoir une commune insoumise à tel endroit, puis elle est prise dans une intercommunalité avec 5 communes qui, elles, n'ont pas basculé dans l'escarcelle de la France insoumise. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un verrou, là, qui risque d'être fatal au projet de transformation radicale ?
J'espère pas.
on espère tous que pas. Mais comment on fait pour envisager la lutte avec cette
juste pour rebondir
ce verrou-là.
Sur ce que vous disiez, moi, je pense qu'en effet, c'est une bonne lecture de penser que l'intercommunalité a été construite pour ça.
Oui,
parce
c'est
qu'elle
ça.
A été inventée comme un projet dans les années 60-70 par une fraction de la technocratie française.
Ouais.
Qui visait à, enfin, qui a été l'avant-garde en fait de la réforme néolibérale en France depuis quoi. Ça a été plus le dada des hauts fonctionnaires de Bercy pour le dire vite quoi, l'intercommunalité comme la construction européenne a été leur dada aussi. Je pense qu'il y a aussi
ouais.
un très bon parallèle de un truc par le haut l'Union européenne et un truc institutionnel par le bas. Sur l'intercommunalité, ou on va dire la décentralisation et construction de l'intercommunalité en même temps, de déconstruction de l'État social tel qu'il avait été dans la période fordiste précédente. Je pense que c'est très juste. Et dans le livre, on montre aussi comment, au sein des institutions intercommunales, donc des conseils intercommunaux, en fait, c'est construit une forme de culture, du consensus, du compromis entre centre-gauche et centre-droit, où, en fait, une préfiguration du bloc bourgeois macroniste qui s'est commencé dans les années 90, dans les intercommunalités, où, en fait, le personnel politique et tout ce qui va autour, je sais pas, les cabinets de tous ces élus, les machins, etc., qui représentent énormément de monde, se sont convaincus par la pratique que, finalement... entre eux et le centre-droit, il n'y avait pas trop de différence et qu'ils pouvaient très bien faire un peu s'entendre. Il y a des bonnes pratiques, il y a des mauvaises pratiques. Quoi.
On est là pour l'intérêt général.
Et globalement, tout le monde est d'accord pour des logiques de gentrification. Tout ce petit monde bourgeois s'accorde toujours pour penser que la gentrification est un bénéfice pour tout le monde, embourgeoiser un peu les quartiers, faire de la ville une espèce de...
On dit embellir les quartiers, on ne dit pas gentrifier.
Oui,
c'est
l'analyse qu'on porte. Mais oui, bien sûr, ils ne disent pas ça entre eux, ils disent pas...
Ils disent faire de la mixité sociale.
Ou la mixité sociale.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'ils appellent mixité sociale ?
La mixité sociale, c'est précisément pousser les populations les plus précaires en dehors des villes. Quand on voit les grands projets de rénovation urbaine et quand on voit précisément la répartition de quel type de logement il y a dans ces immeubles, vous voyez que vous avez de moins en moins du très social, plutôt du logement intermédiaire et de l'accès à la propriété. Et je trouve que nous, dans notre programme aussi, on a su remettre en question aussi la place du droit de propriété face au droit au logement. Mmh. Le droit de propriété ne doit pas être au-dessus du droit au logement, ni au-dessus de tous les autres droits. Et là, c'est là où j'ai volontairement à Lyon un peu lancé la campagne sur la question du logement et de la réquisition.
Ouais.
Parce que nous savons que le logement, c'est la première préoccupation des Français. Le loyer, c'est le premier poste de dépense dans un foyer. Nous savons que depuis 2017, la Macronie n'a absolument rien fait pour résoudre cette crise du logement. Elle a empiré avec des lois comme celle de M. Kasbarian qui a fait qu'on a une augmentation des expulsions locatives dans notre pays. Et donc, nous, comment, en tant que maire insoumis, on va répondre à la fois au manque de logement, à la fois au manque d'accessibilité dans le logement? Il y a deux choses sur lesquelles on agit beaucoup. C'est un, moi, j'ai proposé la réquisition de tous les logements vacants. À Lyon, il y a 5600 logements vacants. Mmh. Et les logements vacants sont souvent ceux détenus par des personnes qui ont énormément de patrimoine. Ça veut dire que vous savez que 60% du parc privé lyonnais est détenu par des personnes qui ont au moins 5 logements.
Ouais, ouais.
Quand vous connaissez le prix du mètre carré à Lyon, vous vous dites ce n'est pas les petits propriétaires.
Non, non, bien
donc
sûr.
C'est faux. Et donc, nous avons proposé justement de réquisitionner les logements vacants pour faire en sorte de loger tout le monde, à la fois ceux qui sont à la rue, à la fois de créer du logement intergénérationnel, puisque vous savez que Lyon est une ville qui a un rayonnement étudiant important, qu'aujourd'hui, lorsque vous avez le CROUS qui ne crée pas davantage de places, ben, c'est là où justement la commune elle doit avoir une prérogative de loger tous les étudiants pour faire en sorte qu'ils accèdent qu'ils accèdent à l'enseignement supérieur. Et donc c'est ça, voilà, toute cette articulation-là. Et par exemple sur l'encadrement des loyers aussi.
Ouais.
Aujourd'hui, précisément, nous nous sommes opposés à la bulle spéculative qui est créée dans les zones tendues comme à Lyon, dans les métropoles comme le Grand Lyon. Et donc, nous voulons aller plus loin que simplement l'encadrement des loyers que nous voulons par ailleurs généraliser à l'ensemble du territoire, mais aussi de supprimer ce qu'on appelle le complément de loyer qui arrive après ouais. cet encadrement de loyer basé sur des critères subjectifs, c'est-à-dire oh, vous avez une belle fontaine à côté de chez vous, bam, on vous rajoute 150 euros sur votre loyer. Mais en fait, aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus les moyens. En fait, on est dans une telle crise sociale que justement, nous, en prenant en compte la situation actuelle, c'est-à-dire un taux de pauvreté record dans notre pays, des gens qui sont à la rue, des gens qui sont mal logés, que c'est 4 millions de mal logés dans notre pays. OK, comment on fait? On réquisitionne, on mobilise aussi le foncier municipal. Parce que ça suffit, en fait, de à la fois donner les terrains à Vassy, à Bouygues, qui vont construire des immeubles dans lesquels ils font pas du tout, justement, d'accès pour les plus précaires à un logement. Donc, mobiliser le foncier et encadrer les loyers.
D'accord. Antoine, sur cette question ?
En fait, moi, je voudrais rebondir juste sur le début de ce qu'on disait sur... c'est un peu compliqué ce que je veux faire, mais je veux rebondir sur ce qu'on disait sur la rénovation urbaine et la mixité sociale.
Ouais.
Mais en fait, pour répondre à une de vos questions précédentes...
OK, pas de problème.
Que c'est, voilà. Parce que, donc, Anaïs disait, en fait, c'est une question super importante, cette question de comment la notion de mixité sociale a été mobilisée pour des projets de rénovation urbaine, donc de rénovation de quartiers populaires, de quartiers HLM, pour en vérité les
gentrifier.
Bon. Et en fait, c'est aussi une question... C'est, souvent, on ne s'en rend pas compte, en tout cas, on en parle très peu, mais cette question, cette politique-là qui a commencé en 2003, donc il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, elle a donné lieu à beaucoup, beaucoup de luttes locales, en fait, de collectifs dans les quartiers qui se sont montés contre la destruction de telles tours, contre les conditions dans lesquelles les gens étaient relogés, l'augmentation de leurs loyers, etc., etc. En fait, on pourrait dire qu'il y a vraiment un grand mouvement social diffus sur cette question de la rénovation urbaine, qui est un des plus grands mouvements sociaux urbains qui a lieu en France, ou qui a eu lieu en France ces 10 dernières années, on va dire. Et en fait, je pense à ça parce que je pensais aussi à votre question tout à l'heure sur la participation. Et sur, OK, on va faire des votations, mais qui va participer? Voilà un sujet sur lequel, en fait, si on faisait voter les gens, oui, les gens viendraient voter. Comment on le sait? Parce que certains l'ont déjà fait. Je pense à la lutte du quartier des Francs-Moisins à Saint-Denis, dans lequel il y a une militante insoumise, peut-être vous voyez qui c'est, elle est sur la liste aussi à Saint-Denis, elle s'appelle Djangou Traoré, qui est un peu la figure de cette lutte. Et eux, justement, ils se sont opposés donc, à la destruction de plusieurs tours dans leur quartier. Ils ont organisé une votation. Ils ont eu, pour une tour, mais donc c'est une grande tour, donc il y a vraiment beaucoup de locataires dedans, ils ont eu près de 100% de participation à leur votation.
Oui, d'accord.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut aussi penser le lien entre la démocratie, entre guillemets, formelle, la démocratie électorale, la démocratie du vote et les luttes sociales. C'est qu'il faut organiser de la démocratie du vote sur des sujets qui sont des sujets chauds, qui sont des sujets sur lesquels il y a du conflit, il y a de la conflictualité, il y a des gens qui sont mobilisés, et pas juste imaginer en chambre quels seraient les sujets intéressants sur lesquels voter. Les sujets intéressants sur lesquels voter, c'est les sujets sur lesquels les gens se mobilisent déjà. Donc c'est aussi une conception, concevoir dans la démocratie directe, la démocratie locale, la démocratie communale, une autre articulation entre le mouvement social et la démocratie plus institutionnelle, plus électorale.
Et ça va être un sacré champ de bataille parce que, de fait, les villes sont des terrains de lutte et notamment, c'est un terrain d'investissement du capital qui a décidé d'en faire son nouvel espace de profitabilité. Hein. Le bouquin montre très bien comment le capitalisme qui est arrivé un peu en mode essoufflé, qui n'arrive plus à trouver les profits dans le monde industriel qu'il trouvé avant, du coup, qu'il transforme la ville en un véhicule spéculatif. Et vous utilisez notamment, vous récupérez le concept formulé par David Hervé de Special Fix, là, qui est hyper parlant. Hein, le mot fixe, F-I-X, est très, très parlant. Hervé propose de nommer Special Fix la manière dont le capital transforme les villes en à la fois... Il s'investit là, donc c'est une fixation du capital, mais c'est aussi un fixe au sens où c'est une dose de drogue et que le capital est complètement addict.
Il y a un aspect fuite en avant.
Et ça indique le niveau de violence que ça va être de lutter contre ça, parce qu'en face de nous, on a un capitalisme complètement addict à la spéculation dans l'immobilier. Vous voyez, je veux dire, dans une addiction dont on ne va pas le sevrer si facilement que ça. Hein. Ça indique le niveau de lutte où ça va se passer. Alors, s'agissant justement de la question du logement sur laquelle vous avez déjà exprimé pas mal de trucs, vous montrez dans le bouquin qu'il y a vraiment une grande histoire en France de la construction du logement social jusqu'aux années... 75, disons. En gros, 55-75, énorme politique de l'offre, en fait. Hein. On bâtit du logement et tout, on fait des grandes politiques de logement social. Et puis, à partir de 75, on arrête cette politique-là et au contraire, on aide l'acquisition de logement. Hein. Ça devient des prêts à la personne et non plus du prêt au bâtisseur. Et du coup, comme l'immobilier reste... se construit peu, mais par contre, on injecte beaucoup de liquidités dans le secteur en faisant plein de prêts, du coup, il y a le phénomène spéculatif, l'inflation, des prix de l'immobilier et tout ça. Et donc, la FI arrive là avec un projet communaliste, un projet pour, en gros, refaire valoir le droit au logement. Mais là, contrairement à ce que la FI propose partout, où elle a tendance à mettre en avant une politique... de la demande. Mélenchon, il va partout répétant que ce qu'il faut, c'est une politique de la demande. OK ? Il faut augmenter les salaires. Mais s'agissant du logement, il ne faut pas une politique de... Il ne faut pas solvabiliser la demande, là. Il faut plutôt bâtir, construire. Il faut produire du logement. OK ? Et donc, là, il y a un peu une bascule politique, me semble-t-il. Dans le cas du logement, il ne faut peut-être pas trop maintenir la politique de la demande. Par exemple, les histoires des prêts à taux zéro. Moi, on a pu acheter grâce à un prêt à taux zéro. Mais en fait, ce truc-là du prêt à taux zéro, c'est typiquement un levier qui favorise la flambée de l'immobilier. Donc, c'est quoi la position de la FI sur le logement et notamment sur favoriser l'accession? Tout à l'heure, vous avez proposé ça. Il faut favoriser l'accession au logement. On va aider les personnes, on va filer des thunes encore pour acheter du logement alors que ça peut alimenter la bulle spéculative dans le logement. Qu'est-ce qu'on fait sur ça?
Alors, moi, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Je disais que là, dans ces grandes rénovations urbaines, ce qui était plutôt fait par les promoteurs, c'était de l'accès à la propriété. Ouais. C'est ce que je disais.
Ouais.
Maintenant, aujourd'hui, on constate que depuis 2017, il y a une baisse de la construction de 30% environ. Ouais. Et que dans le même temps, on a vu évoluer les formes de famille et ce qu'on appelle nous aussi la nouvelle France, c'est-à-dire qu'il y a plus de familles monoparentales. Ouais. Il y a
recomposée.
Un dédoublement des familles et donc qu'il y a une volonté d'avoir plus de logements puisqu'il y a plus de foyers. Maintenant, il y a une difficulté qu'on a, c'est que le pouvoir d'achat des gens n'a pas augmenté.
Non, oui,
alors que les loyers, la flambe, et moi je prends le cas dans une plutôt grande ville, Lyon, c'est que l'augmentation des loyers et le fait de ne pas faire en sorte de faire respecter l'encadrement des loyers fait qu'il n'y a qu'une partie de la population qui peuvent se loger à Lyon. Donc ça crée un aspect ségrégatif en réalité. Et c'est tout là la difficulté.
Pardon.
Maintenant, nous, ce qu'on proposait à Lyon notamment, c'est qu'il y a un certain nombre de friches industrielles, de terrains qui appartiennent à la ville ou à la métropole, qui sont vendus à des prix dérisoires, à des grands promoteurs qui en font des R+12, R+14.
Ça veut dire quoi, R+?
C'est les
nombre d'étages.
Ah oui, d'accord.
Donc des 14 étages, des 17 étages. Et donc là, qui orientent leur offre locative plus vers de l'accès à la propriété. Alors que nous pensons qu'il faut avoir une juste répartition des PLAI, des PLUS.
Différents types de logements sociaux.
Et en fait, aujourd'hui, ils arrivent à gommer justement le fait d'avoir des personnes plus précaires dans ces logements en n'en mettant pas en disponibilité. Et c'est ça, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, la mairie ou la métropole, dans le cas de Lyon, doit préempter en réalité ce foncier. Soit un foncier existant en rénovant un foncier existant, en faisant en sorte de loger, en faisant une coopérative. Voilà, il y a plein de choses à penser.
Ouais.
Mais en fait, ça suffit de donner clé en main, à moindre coût, des terrains, des immeubles à des promoteurs qui ensuite ne font que se gaver en participant au fait que le mètre carré augmente de manière très importante à Lyon.
Mmh. Antoine ?
Si, sur votre question sur politique de l'offre, politique de la demande. Je dirais deux choses. La première, disons peut-être la première la plus social-démocrate, c'est que il ne vous a pas échappé que justement la politique de la demande, le raisonnement keynésien de la demande agrégée était celui qu'on appliquait beaucoup pour construire des politiques économiques dans la période où on menait une politique de l'offre sur le logement, c'est-à-dire 55-75, vous avez dit.
Tout à fait.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de faire baisser le coût du logement était inclus dans le schéma général qui était celui qui servait le capital, même à l'époque.
C'était compromis.
Dans le schéma général de l'augmentation de la demande agrégée ou en fait du transfert du coût des revenus contraints du logement sur de la consommation qui servait le capital industriel.
Tout à fait.
Donc, il n'y a pas forcément, une contradiction aussi…
En fait, oui, c'est toujours complémentaire, en gros.
Après, moi, je dirais que, en fait, sur le logement, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de sortir de ces catégories politique de l'offre et politique de la demande et de considérer que le problème, ce n'est pas forcément la solvabilité ou la solvabilisation des ménages d'un côté ou bien la quantité de logements de l'autre.
Ouais.
Si la quantité de logements est quand même une question qu'il faut se poser du fait de la division des ménages, ce que disait Anaïs.
Tout à fait.
Mais en fait, une question de la nature de la propriété immobilière. Qu'est-ce que c'est que la propriété immobilière ? Et dans la propriété immobilière aujourd'hui, il y a une forme de règne absolu du propriétaire. Il y a la réalisation de l'idéologie propriétaire qu'on a inventée au XVIIIe siècle de « je suis propriétaire d'une chose, donc j'ai un droit absolu sur cette chose », c'est-à-dire en toute chose, je fais ce que je veux de cette chose, je l'aliène, je la vends au prix que je veux, j'en fais ce que je veux, je la modifie comme je veux, etc. Donc, il y a plusieurs droits, en fait, qui sont fusionnés dans le droit de propriété. Ce qui peut être intéressant pour la question du logement au niveau d'une commune, c'est d'essayer de déconstruire, à partir du logement, ce droit de propriété. En, par exemple, séparant le droit d'usage d'un logement,
oui.
la propriété d'usage, du droit de l'aliéner à n'importe quelle condition, donc de le vendre à n'importe quel prix.
Ouais.
Et donc...
En gros, on aurait le droit d'être propriétaire de son domicile, voilà. Ça, c'est un droit inaliénable. Là, la sanctuarisation du droit de propriété est absolue.
Voilà.
En revanche, sur tout autre type de propriété, c'est-à-dire une deuxième maison, un troisième appart, une résidence secondaire, là, le droit de propriété commence à être un peu discutable.
C'est même pas ça que je veux forcément dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être propriétaire de son domicile.
Ouais.
Et être propriétaire de son domicile, ça peut vouloir dire des choses qui sont tout à fait désirables et légitimes, à mon avis, c'est-à-dire le droit de l'occuper comme on l'entend,
ouais.
de le modifier, de ouais. l'adapter à ses besoins. Mais par contre, être propriétaire de son domicile ne nous donnerait pas droit à, quand on veut le quitter, le vendre
à n'importe quel prix. D'accord.
La collectivité aurait un droit de regard sur à quel prix vous le vendez, peut-être même à qui vous le vendez. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va l'habiter ou bien est-ce que vous le vendez à... Apple qui veut en faire un Apple Store.
Ouais, ouais, d'accord.
Et donc ça, pareil, c'est des trucs techniques, mais il y a des trucs
ouais,
dans
ouais.
les communes, dans les politiques que peuvent mettre en place les communes aujourd'hui, il y a des brèches, on va dire, des failles qui permettent justement d'introduire cette séparation. Les communes, parfois, abondent à ce qu'on appelle l'accession sociale à la propriété. Donc, par exemple, il y a des PTZ qui est principalement financé par l'État. Prêt à taux zéro, il y a certaines communes qui abondent un petit truc supplémentaire au prêt à taux zéro ou bien qui mettent à disposition des terrains moins chers pour faire de l'accession à la propriété et tout. Les communes pourraient accrocher à cet argent ou ces moyens qu'elles apportent à l'accession sociale à la propriété un certain nombre de clauses,
clauses
anti-spéculatives.
On rajoute
de l'argent, mais par contre, on encadre le prix, de temps de plus-value quand vous revendez.
La revente et tout ça. D'accord.
Voilà, des choses comme ça.
Ouais, ouais, très intéressant. Là, en fait, on est en train d'épouser un peu le tropisme du bouquin qui parle, en fait, quasiment tout le temps de la commune comme ville. La ville, la ville, la ville. Il y a ce tropisme très fort à la France insoumise. On sent que voilà, Mélenchon est très fasciné par l'urbanisation, le phénomène anthropologique. Maintenant, une personne sur deux est habitant des villes et tout ça. La ville, la ville, la ville. Bon, je comprends, c'est vrai que c'est un phénomène anthropologique, en effet, majeur. N'empêche que pendant ce temps-là, des communes rurales peu denses, il y en a plein, ça existe. En plus, c'est des espaces où l'AFI a la réputation d'être moins audible, d'avoir moins pénétré dans ces espaces-là. Et on peut avoir... l'inquiétude que cette manière-là de penser le nouveau communalisme se précipite dans une pensée du tout-ville. Alors que, par exemple, les soulèvements de la terre nous font apparaître combien l'un des enjeux majeurs de l'époque, en fait, c'est de réimplanter de la paysannerie. On a absolument besoin de reprendre possession de la terre pour cultiver en agriculture paysanne, bio, tout ça. On a besoin, en fait, de redevenir paysan. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de logiciel, ou bien c'est moi qui n'ai pas percuté les endroits où c'était pensé, à penser le communalisme dans le paradigme de l'urbain, alors que la commune, en fait, ça veut dire aussi la commune rurale. Et quid donc de la question de la paysannerie? Comment on fait pour soutenir la réimplantation paysanne dont, en tant qu'écolo, vrai au sens de préoccupation écologique, on sait que c'est hyper important. Comment ça s'articule au projet communaliste, ça? Anaïs, oui.
Je voulais vous dire que j'entends votre question. Alors moi, je suis députée de Lyon, mais je suis originaire de Lorraine et d'une petite commune de la Meuse. Donc la question de la ruralité, je peux l'évoquer avec vous et vous dire que, par exemple, lorsque nous mettons en place un restaurant municipal ou une cantine scolaire gratuite et en circuit court, ça permet de construire justement la paysannerie qu'on appelle de nos voeux, de faire en sorte qu'on ait des agriculteurs qui puissent répondre à la commande publique, en réalité, de pouvoir faire en sorte qu'aussi nos enfants mangent correctement. Et donc, en fait, chacune des propositions qu'on formule de notre programme est aussi adaptable en réalité à des zones dites rurales.
A des conséquences sur.
Bien sûr.
Ouais, ouais.
Parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure justement de faire en sorte d'avoir des restaurants, mais aussi des cuisines centrales dans les villes et dans les communes, au-delà de créer des emplois, ça crée aussi des emplois chez nos paysans et chez nos agriculteurs. Parce que lorsque vous faites appel à eux, bah, vous remplissez leur carnet de commandes. Et en plus de ça, vous leur permettez d'avoir de vrais prix rémunérateurs, pas comme dans les grandes, enfin, les grands supermarchés ou ce que fait l'agro-business, par exemple.
Je dirais que non, il n'y a pas de problème à penser la commune dans un logiciel urbain parce que le monde dans lequel on vit est entièrement dans un logiciel urbain. Je veux dire que je ne pense pas que ce que pointe Jean-Luc, par exemple, auquel vous faites référence sur l'importance anthropologique du fait urbain à notre époque, n'est pas l'importance forcément du fait... Enfin, ce qu'il y a de principal à voir, ce n'est pas l'importance du fait que beaucoup de gens vivent dans des communes denses, dans des communes densément peuplées.
D'accord.
À mon avis, la plus grande rupture, c'est que pendant presque l'entièreté donc, de l'histoire de l'humanité, 90, 95, 99% des humains qui ont vécu sur cette Terre ont vécu dans un mode de vie où, pour satisfaire leurs propres besoins, ils se sont reposés beaucoup sur leur propre production.
Ben oui,
sur
bien
la
sûr.
Leur, sur oui, celle oui. de leur famille, sur...
Oui,
celle
oui, c'est
de
le
leur
potager, la
proche.
Cheminée, et donc on se démerde localement. Bah oui, mais justement, plus aujourd'hui, on va vers la ville, plus on se prolétarise de ce point de vue-là.
Exactement, mais c'est un processus qui n'est pas réversible, à mon avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui vit dans une petite commune dans la Meuse va au supermarché pour faire ses courses, met ses enfants à l'école, va à l'hôpital pour se faire soigner, utilise la route pour aller d'un endroit à l'autre. Et donc, en fait, vit dans un mode de vie qui est un mode de vie urbain, qui n'est pas un mode de vie, qui est le mode de vie paysan traditionnel de l'entièreté de l'humanité. Donc, en effet, tout un tas de problèmes qui se posent à des êtres humains qui vivent à l'intérieur de ce mode de vie à Lyon ou dans la Meuse se pose de la même façon.
Pour essayer de faire un mouvement inverse, c'est-à-dire de réinjecter un petit peu d'autonomie matérielle dans les modes de vie. Parce qu'effectivement, ils vont au supermarché, mais parce qu'ils ne font plus de potager, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Or, est-ce que ça ne fait pas partie des responsabilités de l'AFI aussi de réhabiliter un projet plus d'autonomie dans les conditions matérielles de sa propre reproduction, quoi. Réapprendre à le potager, le bois dans le poêle ou la cheminée, etc. Parce que, en fait, les modèles d'urbanisation, c'est-à-dire de dépendance au réseau, ils sont aussi exposés au risque systémique d'effondrement. Il y a quand même... C'est marrant de vouloir absolument épouser ce mouvement-là qui nous prolétarise, qui nous fragilise... Alors que l'AFI se pose comme un espace de pensée révolutionnaire et que donc on pourrait aussi décider que...
Mais donc être révolutionnaire, ce n'est pas revenir sur le processus de prolétarisation, par exemple, ou d'urbanisation, ou tous les processus qui ont été engendrés par le capitalisme. C'est essayer de les dépasser d'une autre façon.
Oui, d'accord.
Mais par exemple, chez Marx, pour citer les fondateurs, il n'y a pas l'idée, à mon avis, qu'on revient sur la socialisation du travail. Qui a été opéré par le capital, c'est qu'on change de nature la socialisation du travail, mais on ne revient pas à un travail plus atomisé.
Okay.
Moi, je pense qu'en effet, il y a un enjeu qui n'est pas présent chez Marx, qui est donc l'enjeu écologique,
qui est peu présent.
Voilà.
C'est le travail épuise la terre,
Dit. Ouais, mais on va dire que, aujourd'hui, il faut bien sûr... C'est la question qu'on a en pleine face, mais je ne pense pas qu'on puisse la résoudre en disant... on va cultiver notre potager. Je pense c'est pas simplement pour un peu moquer que je dis ça, c'est parce que je pense vraiment que les conditions de nombre d'êtres humains sur Terre, de stade de développement des sociétés dans lesquelles ce mode de vie-là était possible, n'existent plus. Je pense qu'il faut plutôt se poser la question en termes de on va toujours continuer à vivre en raison avec des chaînes de production longues, d'interdépendance et tout, mais comment on raccourcit quand même ces chaînes-là, c'est-à-dire notre nourriture ne dépend pas d'une chaîne de production qui va jusqu'au Brésil ou qui fait trois fois le tour de la Terre, mais d'une chaîne de production qui va peut-être à 100 ou 200 km de chez nous plutôt.
D'accord.
C'est ça plutôt comme ça que je me poserais la question.
D'accord. Là, on est en train de parler de la manière... Vous vouliez intervenir sur ce dossier ?
Non, j'étais en train d'écouter Antoine.
D'accord. Bon, là, on est vachement en train de s'imaginer entre nous, bon, partisans de l'émancipation, du progrès, de l'écologie et tout ça, comment on va faire concrètement. Ouais. Bon, il restera quand même toujours la bourgeoisie, la très grande bourgeoisie, parquée dans des ghettos de riches. Hein. Ouais. Le livre rappelle combien la grande bourgeoisie fait sécession, hein, s'organise dans l'espace urbain en créant des espaces qui sont des espèces d'enclaves ultra-bourgeoises, où à la fois ils pompent sur le réseau commun, hein, ils se font éclairer à l'éclairage public, et en même temps, ils entendent verrouiller l'accès avec des systèmes de surveillance, voire de barrières pour intégrer. Donc je pense à Paris, la Villa Montmorency, hein, cet espace où sont les très grande bourgeoisie. Je sais pas, j'imagine qu'il y a l'équivalent...
À Lyon, oui.
À Lyon, évidemment.
Boulevard des Belges.
Voilà. Alors donc, une commune insoumise, collectiviste... Qu'est-ce qu'elle fait avec les ghettos des riches? Qu'est-ce qu'on fait avec ces espaces-là? On leur coupe l'électricité puisqu'ils nous ferment l'espace. En général, ils s'auto-barricadent. Hein. Ils ferment l'espace public, les voies sont plus accessibles. Pas toujours?
Je vous laisse peut-être aller au bout de la question, mais non, ça, c'est voilà. Justement, c'est, s'ils le font eux-mêmes, c'est illégal. C'est justement un des nœuds de la question. C'est que pour le faire, pour fermer une rue à...
Ouais. Mais il me semble qu'à Marseille, il y a un exemple à Marseille. Il faut
avoir une autorisation. Il faut que la mairie dise que c'est
mais
OK.
Il y a un exemple dans le bouquin de Marseille, je n'ai pas retenu parce que je ne connais pas bien Marseille, mais d'un quartier où les gamins, pour aller à l'école, sont obligés de contourner à mort parce qu'il y a une espèce de, quartier ultra-bourgeois.
Parce que la mairie a dit oui petit à petit à tous les collectifs d'habitants très bourgeois qui disaient telle rue, il faut la fermer, telle rue, c'est la nôtre, il faut la fermer, etc. On peut aussi arrêter de dire oui à ça. Genre de trucs, hein.
Et privatiser, du coup, l'espace public qui appartient à tout le monde, quoi.
Oui, c'est ça. Donc ça, c'est assez facile. Que faire avec les ghettos des ultra-riches?
C'est assez facile. Il y a un moyen, de...
Enlever les portails.
Mais ça, la mairie a le droit de le faire, enfin, en tant que municipalité. En réalité... D'accord. Non, parce qu'on a tellement pris l'habitude de vivre avec ce privilège exorbitant de la bourgeoisie qui s'autorise tout et qui, effectivement, s'accapare le bien commun et ne rend pas du tout, ne participe pas en général, elle paye peu d'impôts quand elle en paye, etc. On a tellement pris l'habitude qu'on oublie que le droit, en fait, nous permet de reprendre possession de ces espaces-là.
Je pense même que ça existe... Je pense à Marseille, par exemple. Je pense que ça existe, par contre, les cas où, en effet, il y a des collectifs d'habitants dans ces quartiers bourgeois et tout qui le font sans attendre d'avoir l'autorisation d'un tel ou tel. C'est-à-dire qu'ils le font de manière illégale, mais que personne ne réagit.
Personne n'ira leur dire « vous enlevez ça », parce que c'est vrai que les pouvoirs en ce moment municipaux, peut-être Marseille, mais... a peut-être plus peur de la petite bourgeoisie avec leur larme de crocodile plutôt que d'une mobilisation populaire qui, comme l'a dit tout à l'heure sur la question des logements Antoine, ne respecte pas. Ils ont plus peur du pouvoir financier et des bourgeois que d'une mobilisation populaire massive. Mmh.
Ça me fait penser d'ailleurs cette discussion sur le droit, qui est mobilisé ou pas mobilisé selon les classes sociales que ça favorise et tout, à New York en ce moment. New York, Zoran Mamdani qui a gagné, etc. On verra comment ça se passe. Mais là, ils sont donc en ce moment dans la période dite de transition où il met en place une équipe transitoire donc, pour préparer sa prise de pouvoir en janvier. Une des chefs de cette équipe de transition, c'est une dame qui s'appelle Lina Khan qui est connue aux États-Unis pour avoir été une des figures... anti-monopole numérique.
OK.
Voilà. Elle a été nommée par Mamdani pour co-présider son équipe de transition.
D'accord.
Et elle a dit qu'elle avait monté une équipe dont la première tâche, ce serait d'aller fouiller dans la masse parfois oubliée du droit existant déjà à New York pour voir... Quelle disposition oubliée, quel droit et tout pourrait être mobilisé, peut-être des trucs qu'aucun maire n'avait utilisé, mais pourrait être mobilisé pour, ça, par exemple, casser les ghettos des riches telle ou telle autre politique qui serve notre projet communaliste.
D'accord.
Bref, c'est juste un petit truc que je trouve intéressant.
En réalité, il y a du droit à notre disposition à condition qu'on sache où il est et qu'on sache s'en servir.
C'est ça.
Tout à fait.
D'accord. Alors, je propose qu'on termine cet entretien sur cette conclusion, qu'il y a des leviers disponibles, parce que je vois qu'il est l'heure de vous libérer, Anaïs. Vous devez aller à l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette conversation. Merci à vous, Antoine, d'avoir coécrit ce livre absolument passionnant. Vraiment, c'est une mine de découvertes pour moi, des trucs parfois un peu techniques, mais qui sont hyper importants à connaître sur le financement, voilà, comment ça marche, une municipalité, une commune, quels sont les droits dont on dispose et ceux dont il faudrait pouvoir disposer. C'est absolument passionnant. Donc, merci encore à tous les deux pour cette conversation. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Dans le texte. Salut.